la table des gourmands. Jusqu'à 19h.
Ce soir à la table des gourmands, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Gonzette, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, un musée fraîchement rénové. En effet, l'inauguration a eu lieu le week-end dernier et malgré un agenda chargé, Marc-Olivier nous a accordé de son temps pour parler de plaisirs culinaires, d'art de la table, mais pas seulement, de voyages et de saveurs. Marc-Olivier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Marc-Olivier, votre licence en lettres d'ethnologie, de linguistique et de français moderne en poche, vous travaillez comme assistant puis comme chargé d'enseignement à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. Vos recherches vous ont fait voyager, notamment aux Philippines, en France, sur l'île de la Réunion, à l'île Maurice. En 2006, avec une nouvelle équipe, tel un chef d'orchestre, vous reprenez la direction du musée d'ethnographie. Avec elle, vous reprenez également le projet de rénovation de cet établissement, un projet dantesque, voire même titanesque, qui vient de se terminer et dont vous êtes venu à bout dernièrement. L'inauguration a eu lieu ce week-end. Le musée, après quelques années de fermeture, est à nouveau ouvert au public, avec la possibilité de partir à la découverte de différents espaces, de différentes galeries, de différents arts venus des quatre coins du monde. Ce soir, en votre compagnie, nous allons au mieux et avec plaisir partager celui des papis, des arts et des voyages.
La table des gourmands.
Marc-Olivier, le projet se termine, mais l'aventure commence. Les portes du musée s'ouvrent à nouveau. Comment se sent-on après une si grande bataille, après un si grand travail ?
Alors, je pense que je ne parle pas que pour moi, mais je pense que mon équipe et moi-même, nous sommes ravis. Parce que la population neuchâteloise nous a fait un accueil fantastique ces quatre derniers jours. On a eu quatre jours d'inauguration différents. Et ils sont venus en masse, ils sont venus avec plein d'éclairs dans les yeux, ils nous ont fait plein de compliments, puis ça fait beaucoup de bien après un chantier aussi long et aussi compliqué, qui nous a permis effectivement de complètement rénover déjà le premier bâtiment, le bâtiment historique du musée, c'est-à-dire celui qu'on appelle la Villa de Purie, qui avait été donnée à la ville de Neuchâtel pour y installer le musée d'ethnographique. En 1902, il a été donné. En 1904, il a été inauguré à cet endroit.
Alors, vu de l'extérieur, on se dit bâtiment, extension, rénovation, on pense plutôt à coups de pinceau et gros travaux. On oublie tout le travail concernant la grande collection du musée. Les objets, il a fallu les déplacer, il a fallu les conserver, il a fallu les replacer. Comment fait-on quand on est directeur de ce musée pour gérer tout ça ?
Eh bien, on bénéficie d'une équipe avec soi. Hein. Au début, j'étais naïf. J'imaginais que le travail pourrait se faire avec simplement les moyens du bord, donc les équipes qui étaient autour de moi. Ils me regardaient avec des gros yeux parce qu'ils se rendaient compte que la tâche était insurmontable avec juste les gens qui étaient là. Et on a réussi donc à convaincre les autorités de nous muscler un peu l'équipe. Et par ailleurs, on a engagé énormément de jeunes stagiaires. Je pense qu'on en a engagé plus d'une centaine sur l'ensemble de l'exercice qui nous ont aidés, donc sous la direction de mes conservateurs adjoints, à gérer ce flot incroyable d'objets qu'il fallait faire sortir de la villa, non seulement de la villa elle-même pour la restaurer, mais aussi de ce qu'on appelle la black box, c'est-à-dire le bâtiment qui est dédié aux expositions temporaires et qui a également un dépôt au sous-sol. Et il fallait complètement le vider parce que c'est la deuxième étape des travaux. Elle commence maintenant, donc on n'avait pas le choix. Il fallait faire les deux en même temps. Ça fait à peu près 50 000 objets qui sont sortis du musée d'ethno. Et pas seulement des objets, aussi des archives, des photographies, des bureaux. Enfin, imaginez, vider une maison patrimoniale ou même un appartement, c'est déjà compliqué. Mais un musée dans lequel on a passé 100 ans, voilà.
Oui, ça vous a pas fait peur. Justement, vous dites que j'étais un peu naïf, mais peut-être le fait d'être naïf vous a porté bonheur, finalement, parce que...
C'est exactement ça. Hein. On part la fleur au fusil, puis on se rend pas compte de la tâche. Et en l'occurrence, c'est collectif. On est d'accord d'y aller, puis on verra bien en cours de route. Et en fait, on a à chaque fois trouvé l'énergie qu'il fallait pour à la fois mener ce chantier, mais en parallèle, nous avons quand même une activité parfaitement normale, à la fois de présentation d'expositions, d'accueil des publics, de publications, de recherches. Donc voilà, un grand coup de chapeau à mon équipe.
Marc-Olivier, pour quelqu'un qui ne connaît rien de rien aux différentes civilisations, aux sciences humaines ou encore à l'art en général, qu'est-ce qu'on peut découvrir si on vient, on mène à Neuchâtel ?
Alors, dans cette première partie de la rénovation du tout, donc la Villa de Purie, on a décidé de faire un exercice autour des collections, parce que c'était généralement ce qui était développé à cet endroit par nos prédécesseurs. Mais on l'a fait en essayant de varier un peu la focale. On n'a pas réalisé un récit linéaire qui raconte une histoire qui commence par le début, qui finit par la fin. On a développé 9 espaces dans lesquels on a mis en scène des collections récentes et anciennes, autour de thématiques qu'on s'est données. Je vais en citer quelques-unes. Hein. Oui, au-delà, au-delà, bien, ça nous a permis de parler notamment des rapports au corps, des rapports à l'Égypte antique, dont on a une très belle collection. On a en fait réinstallé une momie que tous les Neuchâtelois connaissent très bien, mais de manière très très différente de l'installation antérieure. Une autre section s'appelle Poids. Ça nous a permis de mettre en scène plus de 500 poids à Chantilly. C'est des petites figurines qui sont soit des signes abstraits, soit des signes concrets, soit des petites scènes de la vie quotidienne, ou des animaux ou des végétaux, et qui servaient à peser l'or dans une population à Chantilly. Et ça a beaucoup fasciné les Occidentaux parce que c'était des espèces de répertoires de formes. Et on a hérité en fait de cette collection tout récemment et on l'a mis en scène de manière, je trouve, assez exceptionnelle au niveau du look. Le collectionneur était, je crois, très, très heureux qu'en fait, pour une fois, ces collections compliquées, parce que c'est des tout petits objets, soient déployées. Est-ce que vous voulez d'autres exemples ?
Vous avez des supports vidéo hein, aussi, hein.
Écoutez, on a plusieurs espaces, effectivement, où il y a des interactions, notamment un secteur qui s'appelle l'ambassade, où nous avons déployé toute une série de cadeaux qui ont été faits, en fait, quelque part à la Confédération, au canton de Neuchâtel, à travers le musée, et qui racontent des histoires officielles. C'est, en fait, les relations que certains États voulaient instaurer avec la Suisse. Donc, on se montre d'une manière, on va dire, favorable, même si la période historique traversée est complexe. Et puis, on a fait un petit travail de décryptage où on vous donne les coulisses aussi de toutes ces collections et de tous ces cadeaux. Alors, ça peut venir d'ex-URSS, ça peut venir de Roumanie, de Bulgarie, du Bhoutan, du Japon. Et puis tout ça est finalement décrypté de manière assez intéressante parce qu'effectivement, avec des dispositifs interactifs assez sophistiqués.
La table des gourmands, jusqu'à 19h.
Et à la table des gourmands ce soir, nous accueillons Marc-Olivier Gonzette, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Très tôt, Marc-Olivier, vous avez été initié à la muséographie. Comment est-ce qu'on tombe dans cette marmite culturelle ?
Eh bien, j'ai eu la chance d'arriver à Neuchâtel à une période clé, c'est celle où Jean Gabu terminait sa carrière. Alors Jean Gabu, c'était déjà une référence incroyable hein, dans le domaine de la muséo. J'ai eu la chance de voir une ou deux des dernières expositions qu'il a faites, dont les Esquimaux aujourd'hui. Et bien, je me suis lancé immédiatement en essayant d'entrer dans un projet qui s'appelait Musique et Société. Et j'ai fait des recherches avec de jeunes collègues. On commençait l'UNI, hein, puis on s'est dévoué pour cette expo. Moi, j'ai travaillé sur le langage tambouriné. Je connaissais rien à tout ça au départ, mais j'ai écrit un article. J'ai été impressionné de mes compétences scientifiques à la fin de l'exercice. Et puis, j'ai participé un tout petit peu en donnant quelques idées pour l'expo. Je dirais que tout de suite, le virus m'est venu. Et quelques années après, alors, ben, c'était la révolution, puisque c'est Jacques Hénard qui arrivait sur place avec... Jacques Hénard, je le connaissais bien, il était chef de travaux à l'institut dans lequel je faisais mes études. C'était une personne pleine d'enthousiasme, qui mettait beaucoup d'oxygène autour de lui, et puis qui était assez fascinant dans ses prises de position. Donc, l'idée de travailler avec lui m'a immédiatement séduit. J'ai pu le faire avant qu'il soit directeur, puisque Pierre Sanlivre, qui dirigeait l'institut d'ethnologie, a un jour annoncé à ses étudiants qui étaient là pour un cours que l'Institut reprenait la balle du musée, Jean Gabu étant parti, et allait monter l'exposition annuelle, et qu'ils avaient choisi un thème qui était le nomadisme.
Être nomade aujourd'hui, en
79. Et puis moi, j'ai fait en fait une proposition qui était de travailler sur les beatniks, les hippies et les routards, donc parler des nomades d'aujourd'hui, si vous voulez. Oui. Et puis Bon, ça a été accepté. J'ai même pu monter un secteur complet sur la galerie avec des collègues. Et puis voilà, vraiment la deuxième virus avec une expérience complète. Et j'ai eu la chance après d'être engagé comme assistant, aussi parce que j'avais fait cet exercice et qu'il s'était bien déroulé. Et j'ai pu là accompagner Jacques Hénard sur une expo vraiment extrêmement importante dans la série qu'on a faite, qui s'appelait Objet prétexte, objet manipulé, où on a fait en fait une sorte de déroulé de ce qu'on pensait de la muséographie à ce moment-là. Alors pour un jeune muséologue que j'étais, c'était un terrain formidable pour apprendre un peu toutes les difficultés, tous les paramètres dont il fallait être attentif quand on pensait musée, quand on pensait objet. Et ensuite, j'ai plus quitté.
Alors, vos travaux, hein, parce que de la marmite culturelle, on va tout de même passer à la marmite culinaire, si vous le voulez bien. Et vos travaux, donc votre parcours, vous ont emmené aux Philippines, hein, sur l'île de la Réunion, à l'île Maurice exactement. Et vous n'avez pas que découvert de nouvelles saveurs, vous avez également découvert des cultures qui ont un rapport différent les uns des autres avec la nourriture, notamment aux Philippines. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors, si vous voulez, l'ethnologie considère l'alimentation comme un domaine extrêmement riche, hein, qui a un rapport avec l'ensemble des relations sociales. Ça va jusqu'au sacré, dans une certaine mesure. Hein, ça conditionne la connaissance de l'environnement, ça conditionne la manière dont on entre en relation les uns avec les autres, dont on échange, etc. Et moi, j'étais chargé, c'était un projet muséal qui a été lancé par l'Institut d'ethnologie, alors que j'étais jeune assistant, qui consistait à se rendre dans 4 pays différents dont l'alimentation de base était différente de la nôtre pour le musée, l'alimentarium de Vevey qui allait s'ouvrir et auquel on offrait en fait un scénario, si vous voulez, parlant du pain des autres. Et moi, qui connaissais pas grand-chose non plus à l'Asie du Sud-Est, on m'a proposé d'y aller. Et donc j'ai fait mon saut en parachute. D'abord, je suis allé voir une ethnologue renommée à Paris pour essayer de comprendre comment je pourrais au mieux traiter du riz.
Oui, mais on ne mange pas que du riz, rassurez-moi, là-bas.
Ah non, on ne mange pas que du riz. Mais si vous voulez, l'idée, c'était de trouver une population qui faisait toutes les sortes de riz, notamment le riz en terrasse. Et je me suis rendu aux Philippines aussi parce que j'en parle l'anglais et que ça peut être un peu plus facile que si on se retrouve en Chine, dans la campagne. Donc, alors voilà, j'ai fait mon terrain aux Philippines et qu'est-ce que j'ai constaté, c'est que l'alimentation sur place, elle jouait un rôle fondamental, non seulement dans le domaine de l'échange, parce qu'on assistait à de très grands sacrifices de porcs ou de bœufs, par exemple lors des cérémonies funèbres ou lors des naissances, mais surtout, on assistait à l'usage de l'alimentation pour guérir.
D'accord.
C'est-à-dire que le fait de sacrifier un bœuf ou de sacrifier un porc pouvait, dans certains cas, en rassemblant la communauté, traiter un certain nombre de maladies que des personnes éprouvaient dans cette communauté. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est de constater que quelque chose qui est tout à fait illogique, hein, pour un esprit occidental, fonctionnait et en fait aussi réunissait une société autour de principes tout à fait différents des nôtres.
Alors on l'a dit, on ne mange pas que du riz en Philippines, mais vous qui êtes spécialiste en riz, puisque vous êtes spécialisé pour la création justement de l'alimentarium pour Vevey, qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'il y a un plat qui vous a séduit là-bas quand vous êtes allé aux Philippines ?
Alors, il faut bien voir que les Philippines, c'est des régions très très contrastées. Les plaines, par exemple, ont été très influencées à la fois par l'Espagne et par les États-Unis, hein, puisque l'Espagne a été un premier propriétaire du pays et les Américains s'en sont emparés à la suite. Puis, ce pays est devenu indépendant. Donc, plus vous allez haut, c'est-à-dire plus vous allez dans les montagnes, plus vous trouvez des populations autochtones qui ont été relativement peu touchées par l'Espagne et les États-Unis. Donc moi, j'étais dans les montagnes et j'ai été confronté à des nourritures extrêmement simples, liées à la culture du riz local, un certain nombre de légumes, des œufs.
Mm-hmm. Oui,
donc si vous voulez, j'ai été surtout mis face au fait qu'on pouvait manger tous les jours la même chose. Et ça, c'est une expérience assez, assez folle, parce que on est toujours là, nous, en train de vouloir toujours varier. On trouve entre 5 et 10 idées de repas différentes par jour. On assemble des produits qui viennent de partout, y compris de l'autre côté du monde. Et là, bah, c'est des gens qui mangent simplement avec beaucoup de respect, avec beaucoup de plaisir, le même riz, à peu près les mêmes légumes. Et de temps en temps, alors tout ça est alimenté par les cérémonies, par les fêtes, parce que comme cette société partage énormément, bien, il y a toujours quelqu'un qui va à une fête et qui revient avec des morceaux de viande ou... Oui. Des morceaux de porc, des morceaux de bœuf, etc., qui finalement permettent de distribuer ces rations protéinées, si vous voulez, à travers un très grand nombre de personnes. Et voilà, c'est un mode de faire qui m'a beaucoup touché. Et puis, je dirais que je mange beaucoup de riz depuis cette période.
Vous vous êtes également rendu sur l'île de la Réunion. Alors c'est à partir de là que je commence à vous envier. Alors là-bas, vous avez découvert une recette que vous nous avez apportée ce soir, qui s'appelle le curry poulet safran et éventuellement massalé. Alors Prums, qu'est-ce que le curry ?
Alors le curry à la Réunion, ça peut désigner à la fois n'importe quel repas et puis en même temps la chose spécifique qui est en ragoût, si vous voulez. Mm-hmm. Et le ragoût, je décris dans la recette la manière dont on peut le constituer. Une caractéristique de ce ragoût, c'est qu'en fait, on peut apprêter à peu près n'importe quelle pièce de viande ou légumes, voire même des fruits. Et en variant un peu les assemblages, notamment des épices, mais de nouveau, on retrouve une combinatoire qui toujours assemble un petit peu les mêmes produits. Ces produits sont importants pour l'expression de l'identité locale. Alors, je m'explique, il y a notamment l'usage du safran dont je parlais. Oui. Alors, on parle de safran et c'est assez amusant parce qu'il y a pas mal de touristes qui se disent « Oh, il y a du safran ici, puis il n'est pas cher parce qu'il y a un gros sachet pour trois fois rien. » Et en fait, ils se trompent parce qu'il ne s'agit pas du safran qui est...
Comme chez nous.
Comme chez nous, qui est le pistil d'une fleur qui est très difficile et très chère. Mais exactement. C'est du curcuma, en fait. C'est des racines qui sont coupées en rondelles et ensuite qui sont moulues. Et qui donne un goût un petit peu âpre à la nourriture, mais surtout qui la colore. Alors c'est intéressant parce que comme on est dans des sociétés créoles, on est face à des pratiques qui n'aiment pas la nourriture qui est trop blanche. Ils disent blême.
Incroyable.
Quand les choses finalement sont peu appétissantes. Et j'ai toujours analysé cet usage du safran, qui n'est pas une épice qui donne énormément de goût à la nourriture, comme étant une volonté aussi d'exprimer l'identité créole.
Avec ce curcuma donc.
Avec ce curcuma qui s'ajoute, alors là, au poulet que je vous propose, personnellement j'en mets donc toujours dans les plats de viande que je prépare.
Oui, et puis on peut en mettre dans la sauce à salade, c'est bon pour la santé qui plus est. Et en parlant d'épices, il y a le massalé. Alors le massalé, on peut expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est le massalé pour ceux qui ne savent pas.
Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Quand je suis arrivé à La Réunion, à nouveau, toujours, les ethnologues, c'est des champions en naïveté. Donc, on arrive, on ne sait pas grand-chose. Et puis ensuite, peu à peu, on commence à rencontrer des gens, on apprend des tas de trucs, puis on se dit que finalement, les sociétés sont extrêmement intéressantes. Donc là, j'avais décidé de faire un cadeau aux gens chez qui j'arrivais. J'ai préparé à manger une salade de poulet curry. J'avais acheté du curry dans un grand magasin de la place. Et puis... lors de la soirée, une personne qui était tamoule est venue vers moi et m'a dit « Il est super ton riz massalé. » Alors, tilt, je me dis « Attends, il y a du curry. » Moi, j'ai utilisé du curry, elle me parle de massalé, donc il doit y avoir une parenté entre les deux. Et après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que le terme curry, en fait, utilisé surtout qui a été en fait lancé par les Anglais, provenait d'une manière de parler du curry.
Oui.
Parce qu'ils avaient pris la partie pour le tout, c'est-à-dire l'épice que mettaient certains Indiens dans les plats, ils l'ont compris comme curry ou curry. Alors qu'il s'agissait du ragoût. Et l'épice, en fait, qui est le curry, c'est le masala.
Voilà.
Donc le massalé, c'est un mélange d'épices, alors qui peut être là très, très diversifié selon les gens qui le font. Tout le monde a sa petite recette, on met aussi plus ou moins de piment à l'intérieur, ce qui donne la force, ou de poivre. Donc, voilà, je découvrais que finalement, ce que je croyais être quelque chose d'original qui était le curry, eh bien, c'était simplement une variante linguistique de ce qu'on appelle le masala, le masalé.
Alors, vous nous avez amené cette recette, hein, ce curry de poulet safran, éventuellement masalé. On la retrouvera demain sur la page de la table des gourmands. Hein, où il y aura tout le descriptif, comment faire, pourquoi, comment. Et puis, comment servir aussi ce curry. Hein, la plupart du temps, c'est avec du riz ou alors des grains, par exemple des lentilles. En tout cas, on retrouvera cette recette, votre recette, sur la page de la table des gourmands à partir de demain. Marc-Olivier, des épices créoles et exotiques, on passe à un produit du terroir. À la table des gourmands, on a comme chaque mardi rendez-vous avec un grand chef. Ce soir, c'est Jean-Marc Soldati. Il nous parle d'un produit de saison en compagnie de Joël. Il nous offre un petit exposé sur la truffe.
C'est de bon goût. Joël.
La période des fêtes approche, la période de déguster des produits peut-être un peu plus luxueux que le reste de l'année. Et Jean-Marc Soldati, on va s'intéresser à un produit du terroir, la truffe. La truffe, un produit du terroir de l'arc jurassien. Va falloir nous en dire un petit peu plus.
Ben écoutez, oui, la truffe, on a toujours parlé de la truffe noire du Périgord, qui n'est pas forcément du Périgord. Les meilleurs, pour moi, ne viennent pas du Périgord, mais de Provence, du Mont Ventoux, surtout, celles qui ont le plus d'arômes, le plus d'expression au niveau des saveurs. Et puis après, des truffes, je crois qu'il y en a plus de 70 répertoriées en Europe que l'on trouve également chez nous. Donc, si on fait une historique un petit peu groupée des truffes les plus connues, je viens de vous parler de la truffe du Périgord, mais on a chez nous une truffe qu'on appelle la truffe de Bourgogne, l'Estiva, qui est fréquemment récoltée chez nous, surtout dans la région des Trois Lacs. Ensuite, la reine des truffes, à mon avis, c'est la truffe blanche d'Alba, que l'on trouve, si on veut, surtout l'arc alpin, le sud alpin.
Les saveurs de ces trois truffes, elles sont très typées, très différentes les unes des autres ?
Totalement. Alors on est dans des goûts totalement différents, des expressions de saveurs totalement différentes. La truffe de Bourgogne, la truffe d'été, a une couleur un peu grisâtre avec des petites veines blanches. Sa saveur, on est plus sur le terroir et la noisette. La truffe blanche est grise avec des veines très très blanches et une odeur très très forte. C'est une des saveurs exceptionnelles. Et la truffe noire, quand vous la partagez en deux, l'intérieur donc de la truffe est noir avec des veines blanches et vous avez une odeur, à mon avis, c'est des saveurs très classiques.
Ces truffes, vous l'avez dit, elles ont chacune leur saison. On les consomme en saison ?
Alors, ça, sans concession. Ça, ben oui, moi je suis quelqu'un qui fonctionne avec des produits frais uniquement, où on doit travailler les saisons et on doit respecter ces saisons. Ce sont des produits d'une telle intensité, si vous les conservez, vous perdez en saveur et vous perdez en goût. Saveur et goût, hein. Donc vraiment, la truffe d'été que je n'aime pas trop travailler, c'est été, on va dire fin août, début septembre, octobre. Ensuite, vous avez la truffe blanche, qui a une expression. Je pense que c'est la seule truffe qui ne se conserve pas. C'est la truffe blanche. C'est un produit vraiment de très très courte consommation. À la différence de la truffe noire, où là, on peut éventuellement faire de la conserve ou bien des produits. Et elle se conserve aussi plus longtemps. Mais vraiment, la truffe blanche d'Alba a une conservation très, 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 très courte.
La table des gourmands.
C'est de bon goût en compagnie de Jean-Marc Soldati et la table des gourmands, toujours avec notre invité Marc-Olivier Gonzette, qui est directeur du musée d'ethnographie à Neuchâtel. Marc-Olivier, est-ce que vous êtes un fin truffier ?
Un fin truffier. Est-ce que j'ai du nez pour dénicher des perles? Oui, sans doute, oui. J'ai déniché de très très bons collaborateurs au musée.
Alors, on va revenir encore un petit instant sur votre recette, hein, sur cette recette dont on parlait tout à l'heure, sur la recette du curry. Et puis, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose concernant ce fameux curry, ce fameux morceau de viande, ou ce fameux curry, ou ce safran, ou ce masalé. Je vous laisse donc donner vos explications.
Oui, je reviens en fait sur ce qu'on peut appeler les manières de table, hein, c'est-à-dire la façon dont les gens, par exemple, se servent et mangent. Donc ce qui est intéressant avec le curry, c'est que quand je suis arrivé avec toujours ma soirée où j'offre un repas, j'ai eu la mauvaise idée de servir le riz aux gens. Et on m'a très vite dit que c'était une insulte, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, chacun choisit la quantité de riz qu'il veut mettre sur son assiette. Et généralement, c'est assez monstrueux, parce qu'on appelle ça un piton de riz, et ça peut devenir un piton docker, c'est-à-dire que le riz, c'est vraiment la nourriture de base. Et alors, ok, je ne l'ai plus jamais fait, mais il y a encore autre chose qu'il ne fallait pas faire, c'est mettre curry sous de riz. Mettre curry sous de riz, c'est mettre d'abord le ragoût, ou mettre d'abord les légumes, et ensuite mettre du riz à côté. Ça, c'est absolument impensable. Ce qu'il faut faire, mettre curry sous de riz, l'expression, ça veut dire être un peu hypocrite.
Ah, voilà.
Donc, on est dans quelque chose qui ne se fait pas. Donc, on met le riz, ensuite, on dépose par-dessus les grains, puisqu'il faut en général que les grains s'associent au riz. Quand on a la chance d'avoir de la viande, eh bien, on la met par-dessus. Et ça, c'est chaque personne qui se sert. Et l'autre élément aussi, c'est que c'est la même chose dans la cuisine indienne, les morceaux sont relativement petits pour, quelque part, qu'il ne soit pas nécessaire de les couper. Hein, avec un couteau ou n'importe quoi, on pourrait même, à la limite, le manger avec les mains, ce qui se faisait couramment auparavant, bon, ce qui se fait de moins en moins, bien sûr.
Merci pour toutes ces précisions. En tous les cas, mais moi j'aime bien. Alors le fait de savoir que tout le monde se sert, ça m'évitera. Je vais servir, je crois, la créole maintenant que vous m'avez donné ces petits conseils.
La table des gourmands.